Qu'y a-t-il de plus stressant que d'enregistrer un mixeur professionnel? Enregistrer celui qui, avec son complice de toujours, Denis-Éric Penneault, ont fait danser le boogie à toute la communauté publicitaire montréalaise pendant plus de 8 ans. On pique une pointe de conversation avec Andrés Norambuena, producteur exécutif, associé et chic type de chez Boulevard. Cut!
Salut Normand!
Hey Andrés, comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Moi, je suis crampé puis je suis un peu gêné là, parce que c'est moi qui étais en train d'enregistrer Andrés.
Ah, ça, c'est rare que ça arrive.
Fait que Boogie, ça a commencé en 2006, 10 ans plus tard. Ça s'appelle plus Boogie, mais l'esprit Boogie est encore là. Comment ça va?
Ouais. Ben, ça va bien. C'est plus grand, c'est plus diversifié. C'est des projets qui arrivent n'importe où. Avant, ça arrivait évidemment juste par le son. Puis là, Boulevard est arrivé en 2014 avec les coups départements, tout immersif. Pour le décrire, c'est comme des stunts, si tu veux, technologiques. Fait que ça va à une projection mapping interactive, jusqu'au VR, que la réalité virtuelle, si on fait aussi de la réalité augmentée. Fait que ça vient de tout bord, tout côté. Là. Fait que c'est pas mal créatif, c'est pas mal de fun.
Puis comment ça marche au juste? C'est une nouvelle compagnie, puis vous êtes plein de nouveaux actionnaires, ou c'est plusieurs entreprises sous un même toit?
Non, nous, on a tué Boogie pour créer Boulevard. En 2011, on a acheté la post-prod et on a eu de la difficulté à faire démarrer le côté post-prod parce que quand les gens parlaient Boogie, les gens parlaient de son. Ils parlaient du son, de la musique, du carré, quand c'était carrément. Mm. Quand on a eu l'idée de faire les deux autres nouveaux départements qui étaient l'immersif et la production, on a pris la décision de tuer Boogie et de créer une nouvelle entité qui s'appelait Boulevard. Fait que c'était toutes les mêmes associés. Fait que, mais et de là aussi, on a jeté New York.
Oui.
Que New York, on a fermé l'été passé.
Ah, OK.
Ça a duré à peu près 30 minutes.
Ah, ben, coudonc. Probablement les 30 minutes les plus chères de ta vie aussi. Hein?
Exactement.
Fait que toi, t'occupes-tu encore du son ou tu joues au grand maître financier?
Je m'occupe je m'occupe pas mal de l'administration générale au studio. Tel un DG, mais toutes les grandes décisions internes, tout ça, je me fais aider parce que j'ai pas été formé pour ça. Fait que je suis à la direction générale, mais j'ai toute une équipe en dessous de moi qui m'aide, des gens en finance. Ou Denis-Éric, il ne faut pas oublier que maintenant, encore et toujours mon associé. Mais j'adore ça d'être tout le temps, être avec les autres. Les gens me demandent mon avis, on y va te parler, on te parle là, je pense que c'est ça. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? On met tous les amis ensemble. En fait, je suis un accumulateur d'idées, puis j'ai filtre, puis je les redonne à tout le monde. T'sais. Fait que j'adore ce rôle-là.
Tu pensais-tu que tu t'en irais vers là quand tu étais... assistant chez la majeure, puis que dans le fond, tu voulais juste jouer avec des consoles?
Non, pas du tout. Je pensais jamais. Non, je pensais jamais arriver à faire ça. Sûr que j'ai des skills sociaux pas mal élevés.
Arrête donc.
Mais tu sais, à la majeure, j'ai eu tellement de formations écœurantes auprès de Sylvain Lefebvre, puis Luc Préfontaine, qui était là-bas le 30 du 21. D'avoir côtoyé, quand j'étais super jeune, quand j'ai commencé, j'avais à peu près 20 ans comme assistant, dans le temps que je te servais du café à Outran.
Oui.
Quand j'ai commencé là, c'est d'avoir côtoyé des personnalités super fortes du milieu de la publicité. C'est comme si j'allais à toutes les games des All-Stars. Je pense que c'est là que ma formation est venue de comment côtoyer ces gens-là, c'est à les observer, eux autres, dans leur relation, à tout le temps être avec des grosses têtes, tout le temps être avec des leaders, tout le temps prendre des décisions qui faisaient des grosses différences dans des campagnes. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a fait mon bagage, finalement, qui c'est là que, de petit peu, sans le vouloir, toutes ces idées du studio, le reste, c'est un peu enchaîné tout seul, c'était pas prévu.
Ben, c'était quand même un move partir Boogie, là.
C'était tout un move de partir Boogie, mais quand t'es jeune et fou, puis tu sautes en bas d'une falaise, plongé dans l'eau, tu réfléchis pas qu'il y a tellement de danger qu'il peut arriver n'importe quoi, là. C'est un peu comme une idée folle, puis on l'a quasiment identique au niveau de la qualité que les autres studios en ville, je ne retournerai plus.
Ah oui, hein?
Mettons que les deux premières années, moi puis Denis et Eric, on a travaillé comme des fous furieux. Le studio, on l'a construit de nos mains parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous.
Mm-hmm.
Fait qu'on a vraiment défoncé les murs, peinturé, pelleté du gravier. C'était quelque chose. Je pense pas que je la ferais.
Ben, c'était un peu ce que vous refaisiez en démolissant les fondations que vous aviez bâties vous-même pour recréer l'autoroute, le boulevard.
Écoute, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Détruire Boogie, c'était tout un guest. Hein. C'était un nom tellement bien établi, qui avait une super renommée, c'était connu de tout le monde. Mm-hmm.
Tu disais que c'était un petit éclat de jeunesse, probablement dû à ton sang latin en partie de te lancer dans le Boogie. C'était-tu plus posé quand vous avez pris la décision d'aller boulevard?
Ouais, c'était plus posé, c'était plus stratégique à quelque part parce qu'on voyait que on avait le choix d'agrandir des studios de son puis d'en faire plus ou de rester pareil puis de se diversifier. Parce qu'on préférait rester comme une petite shop qui fait encore des produits créatifs high-end. Bon, on préférait d'avoir un petit restaurant toujours plein qu'un immense restaurant parce que des fois, il y avait des vides interminables. C'est plus réfléchi, mais on a quand même fait des erreurs. C'est New York, c'était une erreur qui coûtait cher. Puis, on a quand même appris là-dessus, mais pour le reste, ça fonctionne super bien. Hein. On est vraiment contents.
Malgré le fait que vous ayez cru en vous, mais vous ayez cru en termes de croissance de façon latérale, l'ADN Boogie est encore là ou ça a changé la donne?
C'est différent parce qu'il y a plus de monde, mais il y a la souveraine folie est toujours là. Mais non, un peu le craziness, la jeunesse est encore là. Ouais, avant ça, on l'a pas perdu, mais ça vient de moi et de Néric, on est fait sur cette base-là, ça descend de nous, puis je pense que les gens à l'interne aussi, ils aiment bien ça, c'est des jeunes qui sont ici, qui adorent ça quand c'est fun, quand c'est open, quand ils ont de la liberté, quand ils peuvent créer en paix, quand ils peuvent prendre la décision, on est quand même une boîte flexible avec nos employés, là. On n'est pas les gens les plus rigides. Dans le daily, mais oui, qu'on reste super rigide, c'est dans le produit créatif. C'est au final, qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait? Là, notre dernier projet, il était du coup, c'était-tu le meilleur?
Après 2 ans d'existence, les constats, c'était-tu le bon move?
Oui, complètement. Puis avoir les gens nos clients qui s'approchent de nous, les projets qui sont sur la table, on les a pas tous réalisés, parce que des fois, les gens, ils viennent, que ça soit pour le Canadien de Montréal, qui est voir à plusieurs reprises pour les alimenter en idées, en immersif, en stunt, que ce soit des gens comme ça ou DRP, la division récréative de Bombardier. Fait qu'on aide autant des clients qui veulent faire des choses directement avec leur clientèle, faire vivre des choses à leurs clients,
mm-hmm.
ou avec des agences où est-ce qu'on aide à déployer des activations, des stunts, ça en passant par la technologie.
Ce que vous n'auriez pas pu faire si vous étiez juste...
Non, jamais. Moi, ce que j'aime, c'est que tous ces projets-là sont tellement différents. T'sais, moi, quand je disais, non, c'est différent, chaque fois, c'est différent quand je suis en studio mix, c'est tout le temps différent, mais là, ça n'a pas d'allure, c'est différent. Il n'y a pas un projet qui est pareil, on peut jamais les coder pareil. Puis, ça me rappelle dans le temps que moi, je faisais du live. Avant de faire du studio, je faisais des shows live.
Ce qui est cool dans cette dynamique-là aussi, c'est étant donné que vous ayez diversifié l'offre avec, justement, comme tu dis, réalité virtuelle, puis c'est une nouvelle patente-là que tout le monde essaie de domestiquer, d'apprivoiser, mais aussi d'avoir l'occasion de faire des projets. Là, tu veux que tu en fasses au moins un premier, etc. Ben, ça fait en sorte que vous êtes vraiment plus un endroit de prédilection pour aller s'essayer dans la mesure où, comme vous touchez à d'autres éléments de ces expériences-là, ben,
Vous n'êtes pas juste tributaire de « Ah non, c'est ta boîte de produits. Ouais. » Vous pouvez penser à nous autres au moins pour faire le son. Fait comme vous en faites plus, ça, vous allez chercher une expertise à la fois dans le son, mais dans tout le reste. Puis ça fait comme un effet de boule de neige.
Exactement. Puis l'exemple de VR qu'on ferait, c'est un excellent exemple où est-ce que tous les départements doivent travailler ensemble. Le fait de venir ici, ça a rentré par l'Université de la technologie. On a dit, whoop, OK, ouais, mais on a besoin d'une équipe de tournage. On avait l'équipe de tournage qui était là ici. Hey, il faut faire de la post-production là-dessus parce que faut faire une colo, il faut faire de la post-prod, tout ça. Ça aussi, c'était en place. Puis on a fini par faire le son, trouver la musique, faire du mixage, enregistrer des voice-overs, tout ça. Fait que finalement, au final, pour un projet comme celui-là, c'est vraiment un projet où est-ce que venir à faire ici, c'est pour un client, c'est simple. Hein. Il se ramène de salle en salle. Il était, justement ce matin, il était en post-production, puis là, ils ont fini l'approbation et ont traversé dans les studios son. Là, il y avait une autre équipe, il y avait un mixeur qui l'attendait, tout ça, en même place. Puis nous, on se parle entre nous. T'sais. Fait que ça, pour un client, aussi d'avoir un one-stop workshop, c'était vraiment ça l'idée derrière Boulevard, d'avoir le one-stop workshop. C'est là qu'il s'apprend tout son temps. T'sais.
Ça doit vous donner une flexibilité qui va pas toujours de soi en prod, dans la mesure où si éventuellement une étape, il se passe quelque chose qui a un petit impact sur un autre département, ben c'est plus facile de cogner à la porte de ton voisin que de retourner en arrière dans une autre boîte. Là.
Ouais, mais il y a un couteau à deux tranchants là-dessus.
Ouais. Genre.
L'affaire, c'est que, tu sais, quand, mettons, qu'il y a un réel établi qui commence à faire une job ici, c'est sûr et certain qu'il va descendre dans le studio de son pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, mais puis en même temps, c'est sûr que quand on est au courant, le musicien va venir voir le réalisateur, hey, t'as besoin d'aide, puis là, ça donne qu'on passe comme plus de temps non facturé sur le projet. Qui est une excellente chose pour le client. Là, du coup, on est comme, OK, là, wow, là. Fait qu'il y a comme un chaos vraiment agréable, inter-artiste qui n'arrête pas de se poser des questions, puis vient donc voir ça avec ça. Ouais, mais, hey, essaye à faire telle affaire en son, j'ai entendu telle affaire l'autre fois, faire venir un mixeur, pendant que le réalisateur, il est en flamme, puis il fait une colo, puis tu sais. Ça, c'est vraiment ça qu'on voulait créer aussi, de réunir tous les artisans, de les mettre tous ensemble pour créer une boule créative. Mais finalement, le côté incontrôlable de ça est vraiment, vraiment cool.
La suite des choses?
Boulevard, pour moi, c'est encore un bébé. Tu sais, en production, on n'a pas du temps. On a quand même 2 ans en production. Puis en immersif avec ça, on a quand même 2 ans. Fait. La plus des choses, c'est vraiment d'être capable d'en faire plus, de montrer au monde jusqu'à où est-ce qu'on peut aller, tu sais. C'est ça qui... Tout ça, c'est excitant, ce truc-là, là. Parce qu'on n'a pas encore tout montré qu'est-ce qu'on est capable de faire, tu sais. On n'a pas touché à la robotique, encore, qu'on est capable de faire. On n'a pas touché à des... Fait que ça soit des objets connectés. On n'a pas encore fait. Même, on est en train d'en concevoir un qu'on peut pas montrer, mais c'est exactement le genre de choses qu'on veut faire, puis qu'on fait, puis qu'on est capable d'offrir, hein. La VR, faudrait que je retrouve l'article pour avoir les bons chiffres, mais on n'a pas encore commencé à trouver les bonnes utilités. Fait que là, on est bien excités, on essaie de le mettre à n'importe quelle sauce.
Ouais.
C'est pour faire attention, ça ne sert pas à tout. Mais il y a des choses qu'on peut faire avec ça qui n'ont pas non plus encore été utilisées. Fait que tout est quand même excitant. Je ne sais pas comment ça va se passer dans 5 ans. Moi, je suis convaincu que la télé ne va jamais paraître. Je suis sûr qu'on va toujours vers la prod traditionnelle. Mais je pense qu'il y a vraiment un vent de changement au niveau de l'expérience. Qu'est-ce que les gens vivent avec la marque?
Moi, j'ai plus d'autres questions pour toi, Andrés. As-tu des points que tu voulais partager, communiquer ou qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé traiter d'eux?
Non. À part la coiffure d'Éric Chardonnay. Le reste, comme ça.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant Pizza for All. Pour écouter d'autres podcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Pizcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!